Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tu veux bien te représenter, s'il te plaît, pour les gens qui nous rejoignent dans le chat?
Ah oui, alors... je m'appelle Marvin M. Toumo. Je suis d'origine guadeloupéenne. Je suis designer, enfin, je crois, apparemment. designer, je suis aussi artiste plasticien, poète et dramaturge, même si j'aime pas trop ce mot, parce que je le trouve un peu...
pompeux.
Pompeux, mais même désagréable à l'oreille. On va dire, je fais de la mise en scène, voilà. Ouais. Donc j'ai étudié aux Beaux-Arts à la Villa Arson. Ensuite, j'ai étudié à Genève à la Aide. En master mode. Et entre-temps, j'ai fait du mannequinat. Donc ça m'a permis d'avoir... ces différentes expériences me permettent d'avoir une vision un peu à 360 de la question du vêtement et de l'image et du sens, enfin du contenu qu'on met dans les images et dans les vêtements. Et j'ai fait le Festival d'hier, qui est un festival international de mode qui se passe hier dans le sud de la France, qui est un festival assez prestigieux, qui m'a un peu lancé après l'école. Et j'ai gagné le prix Chloé. Voilà, donc c'était... c'était super, on prend l'argent et la visibilité, donc c'est super. Et après ce prix, Chloé, du coup, j'ai fait cette collaboration Jean-Paul Gaultier dont on a parlé tout à l'heure. Et là, je viens de recevoir un prix en Suisse, le prix Premio qui soutient les arts vivants. Donc, j'ai un parcours qui est pour moi assez fluide et organique, mais sur mon CV, ça peut apparaître comme un peu conflictuel, ces différentes casquettes et ces différents médiums que je traverse. Voilà, je sais pas quoi dire de plus.
Justement, ça peut paraître, ça peut porter à confusion. Est-ce que tu as l'impression que la mode est assez réticente en tant qu'industrie à des artistes qui seraient pluridisciplinaires, qui multiplieraient les médiums d'expression?
Alors, c'est intéressant parce que t'as utilisé le mot artiste et je pense que déjà, en tout cas pour parler de moi, dans la mode, je suis pas identifié comme un artiste, je suis identifié comme un jeune créateur, jeune designer, avec tout ce que ça comporte symboliquement de, on va dire de, de charge et de challenge. Et non, je ne suis pas identifié comme artiste dans la mode. Et dans les arts plastiques, je ne suis pas plus que ça identifié, en réalité. J'ai une pratique artistique, mais que je n'ai jamais eu, par exemple, l'occasion de faire une exposition. Je dessine, mais même sur Instagram, je montre très peu cette partie de ma pratique. Je fais des sculptures, c'est pareil, c'est quelque chose que je ne montre pas. Et ma pratique, du coup, dans les arts vivants, elle vient à la base, du coup, de la mode. Parce qu'en fait, il y a une amie metteuse en scène et aussi actrice qui m'a invité à faire les costumes de ses premières pièces, qui s'appelle Keiji Kagame. D'ailleurs, allez voir Keiji Kagame, c'est une super personne. Elle est dans le dernier film d'Alice Diop et ça va buzzer bientôt. Mais elle est metteuse en scène aussi à la base, c'est une artiste. Donc j'ai fait les costumes sur ces deux premières pièces et à travers ça je suis arrivé vers le théâtre et c'est vrai que le théâtre c'était quelque chose qui me donnait envie déjà depuis enfant parce que mon rapport aux vêtements il est arrivé avec le carnaval aux Antilles donc pour expliquer un peu dans le contexte en Guadeloupe, le carnaval, c'est pas comme, enfin, je veux dire, c'est pas le carnaval, c'est pas pareil que le carnaval en, ici en Europe. C'est un espace de, c'est un espace où nous, héritiers des colons et des esclaves, surtout, on vient reconvoquer certaines figures, réclamer un héritage africain, un héritage, l'héritage des nègres marrons, comme on les appelle, qui en fait étaient les esclaves qui s'échappaient des plantations et qui résistaient. Et c'est un espace où on utilise aussi le travestissement pour repenser... repenser le genre, repenser notre genre et renverser les rapports de force qu'il y a dans la société guadeloupéenne, la société antillaise plus généralement. Et moi, c'est quelque chose que du coup j'ai vu, là j'explique d'une façon un peu intello, hein, mais c'est quelque chose que j'ai vécu enfant parce qu'on a tous dans notre famille des personnes qui participent au carnaval et c'est vraiment quelque chose qui prend... Enfin, c'est un peu l'élément de culture vivante sur l'île le plus, je dirais, qui est le plus important. Et donc, bon, bref, c'est mon premier rapport aux vêtements, et du coup, pas vraiment tant à la mode, mais aux vêtements. Et ensuite, j'ai eu envie de faire... de développer des choses autour du vêtement. Et c'est vrai que cette question du vêtement, mais pas forcément de la mode, est restée au cœur de mes préoccupations. Pas tant que je boude la mode parce que c'est un médium que j'adore et que je trouve fascinant et comme on en parlait tout à l'heure, enfin je pense que c'est vraiment un peu on pourrait dire une forme de symptôme ou un thermomètre qui nous dit un peu ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan de l'avancée des droits des minorités, des femmes, sur les envies aussi esthétiques du moment. Mais moi, le vêtement m'intéresse plus précisément parce que, avec le mot vêtement recouvre plein d'autres choses qui n'intéressent pas forcément les gens de la mode. Donc, par exemple, moi, dans mes collections ou dans mes projets, je m'intéresse beaucoup à différents types de vestiaires. Donc, autant le déguisement, la haute couture, les vêtements plus du quotidien. Les choses qu'on fait aussi à la main, qui sont plus du DIY, qui sont plus du costume. Et du coup, mes références, elles traversent l'histoire des images, l'histoire des objets, mais pas forcément... Elles sont pas forcément consignées à l'imagerie de mode et le vestiaire de la mode, qui justement... tout à l'heure, on en parlait de cette question de la portabilité. Par exemple, c'est une question qui m'intéresse pas spécialement. Parce que c'est pas là où moi je sens que j'ai des affinités avec le médium. Voilà.
Et c'est une question hyper difficile, mais comment est-ce que tu définirais ton style, tes codes, ton identité artistique et créative en tant que créateur de mode aussi?
De façon un peu générale, il y a des thématiques qui m'obsèdent, qui m'intéressent. J'aime bien l'idée du personnage et de la personne qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un peu les choses obsédantes qui, quand je travaille, m'animent. Et à l'intérieur de ces questions, à l'intérieur de ces questions, il y a plein de choses qui sont très politiques. Donc justement, ces questions d'incarnation et de désincarnation dont tu parlais tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La question de aussi qui on montre, qui on cache, qui se représente et à travers l'image de qui. Par exemple, dans le déguisement, c'est quelque chose qui est hyper intéressant de voir. On se déguise en qui. Là, actuellement, on voit que les célébrités au dernier Halloween, se sont beaucoup déguisées en personnages de fiction. Et en personnage même de dessin animé ou de comique. C'est intéressant parce que l'histoire du déguisement est une histoire d'appropriation des corps et une histoire qui est liée à l'histoire coloniale et l'histoire sexiste qu'on vit encore en Occident. Je veux dire que pendant longtemps, même qu'on peut le voir dans le cinéma, les déguisements d'Halloween, c'est des cow-boys, des indiens, des princesses, des sorcières, et toutes ces figures sont des figures politiques. Parce que pourquoi on se déguise en Amérindien, en Première Nation, dans un pays qui a commis un génocide sur ses peuples? Pourquoi on propose aux petits garçons cette figure du cow-boy quand on oublie le fait que les Amérindiens et les Afro-Américains ont participé à construire ce mythe aux États-Unis du cow-boy, alors que c'est une figure qu'on voit plutôt comme une figure blanche. C'est aussi un personnage qui est un personnage extrêmement violent. Donc c'est intéressant qu'on le propose aux petits garçons, parce que c'est... Bon, il y a le rapport de l'homme à l'animal, déjà, ce rapport de l'exploitation et de l'élevage et de la violence qu'il y a autour, mais il y a aussi cette question de... Enfin, dans le contexte historique, le cow-boy, c'est aussi une figure qui est liée à un contexte de chasseur de primes, de chasse à l'indien, de chasse à l'esclave. Par exemple, c'est tous ces rapports que je trouve assez intéressants. C'est vrai que je reviens à la question du début. J'ai beaucoup de mal à ne pas partir loin donc, quand j'explique.
T'inquiète.
Mais oui, donc mon style, en fait, c'est vrai que j'aime bien imaginer quelque chose qui est entre plusieurs médiums et entre plusieurs idées. Et j'avais, pour ma précédente collection Chien Fleur, j'avais utilisé le terme de déguisement haute couture, parce que je savais que que ce collage, en fait, allait provoquer des réactions soit amusées, soit dérangées, parce que le déguisement, c'est tout ce qu'il y a de plus. Surtout aujourd'hui, c'est AliExpress, c'est les images sur Google, c'est quelqu'un qui se fait son propre déguisement et qui se filme
aussi
sur
la
TikTok.
Qualité, voilà. On a plutôt...
Grande critique sur Drag Race, c'est quand ton costume ressemble à... l'habit de drag queen ressemble à un déguisement. Quoi.
Voilà. Et dans la mode, c'est aussi un truc, même dans nos études de mode, dans nos études de design de mode, c'est quelque chose qui revient souvent pour dénigrer une création. On va dire c'est trop du costume, ou ça ressemble à un déguisement, ou on va donner une référence d'un déguisement. Moi j'ai en mémoire des jurys, pas que les miens mais ceux de d'autres personnes de ma classe ou de mon école, où souvent on donnait l'exemple. Je me rappelle une fois on avait dit à une designer ça fait un peu Astérix et Obélix ta robe.
C'est pas sympa.
Ouais, c'est ça. Et
du coup, c'est aussi une culture élitiste qui décide de dire, en fait, cette catégorie de vêtements n'est pas intéressante, n'est pas pertinente, ne mérite pas notre attention, ne mérite pas d'être dans nos musées, dans nos musées d'artisanat. Et c'est vrai que tu l'as dit, il y a cette vision aussi du déguisement comme quelque chose de cheap,
comme quelque chose de très pauvre. Ouais.
Mais c'est aussi un espace qui est réclamé par les minorités, les personnes qui viennent des milieux les plus pauvres, on va dire, de la société. Notamment quand je parle du carnaval, c'est quand même quelque chose qui est assez important à dire sur le carnaval, c'est que c'est pas... En fait, on a le carnaval de Rio, par exemple, qui est une hyper grosse production, où il y a des histoires de gangs, des histoires d'argent derrière. C'est vraiment une industrie. Mais aux Antilles, enfin dans la Caraïbe, le carnaval, c'est vraiment une pratique qu'on fait en famille, en communauté, avec des petits moyens. Et c'est tout ce bricolage qui permet de s'exprimer. Et c'est quelque chose que moi, je trouve extrêmement beau. C'est vrai que dans le milieu de la mode, on a tendance à classifier... maintenant aussi, on a toute cette idée de savoir-faire, de métier d'art. C'est quelque chose que je trouve extrêmement fascinant. Mais je pense que ça ne doit pas venir cacher le fait qu'il y a d'autres types de mains, d'autres types de factures, d'autres types de personnes qui fabriquent cette histoire du vêtement et cette histoire de la mode plus globalement, qui ne sont pas forcément les premières mains de chez Chanel. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et que j'ai aussi envie de remettre au centre du sujet de la mode, en tout cas quand je fais des vêtements.
Et ça passe aussi à travers des matières hyper originales. Justement, tu nous as montré certaines pièces. Enfin, tu nous as ramené certaines pièces. Est-ce que tu veux bien nous les montrer, nous les présenter, s'il te plaît? Oui. Ça va être un peu compliqué d'en parler et de les montrer en même temps. Mais on va y arriver. En tout cas, est-ce que toi, Florence, est-ce que t'as des questions? Attends, je viens de réaliser un truc. C'est que je crois qu'il y a une caméra qui s'est éteinte.
Ah oui, la nôtre.
C'est la vôtre en plus.
Ouais, c'est la nôtre. Attends.
Le temps qu'on te voit pas.
Ouais. Du coup, attends, je mets la caméra sur toi, Marvin. Est-ce que tu viens nous présenter ce sac? Ouais, oui, peut-être que tu peux le rapprocher de l'objectif qui est au-dessus de toi. Ouais.
Alors.
C'est très méta.
Alors, oui, du coup, il faudrait que je place le contexte d'abord. Mais en fait, j'ai fait une collection qui s'appelait Chien Fleur, qui est une collection où j'ai essayé de créer des connexions entre le vocabulaire de la mode, qui est un vocabulaire animalier, donc par exemple le slip kangourou, le bonnet d'âne, la guêpière, il y en a plein d'autres. Je pense que tout le monde a un peu en tête des mots comme ça qui viennent du vêtement et qui sont, qui font référence à des animaux. Et j'ai confronté ce vocabulaire, du coup, avec le vocabulaire animalier qu'on utilise en général, dans l'argot ou dans le langage familier, pour dénigrer ou insulter une personne. Et mon envie avec ce sujet, c'était de déjà m'amuser, rire un peu de tout ça, confronter ce discours de la mode qui est très élitiste, avec ce langage familier qui est aussi très violent et qui... est chargé de toutes ces questions de domination dont je parlais précédemment. Donc, par exemple, quand on traite une femme de guenon, ou quand on nomme une femme noire de panthère, quand on nomme une femme âgée qui fréquente des hommes plus jeunes comme étant une cougar, ou une femme qui aurait une sexualité qu'on considère comme bestiale, qu'on traite de cochonne ou de chienne. Après, il y a des termes qui sont moins violents. Non, pas tant que ça. Ouais. En fait, la plupart du temps, ils le sont. Mais quand c'est pour le masculin, on a le pigeon, le canard, donc pour parler d'hommes qui se font voler leur argent par des femmes. qui se font plumer, exactement. le poulet, pour parler des flics. Et donc, tout ça, c'est deux vocabulaires, du coup, celui de l'animalier de la mode et celui du langage courant, quoi, m'intéressait de les confronter. Et donc, j'ai imaginé une collection avec des personnages. Donc, dans la liste de personnages, on a un poulet, on a une mère poule, on a une chienne, on a une cochonne, on a une vache... Ainsi de suite. Et à chaque fois, j'ai essayé de créer ces connexions entre qu'est-ce que allait vouloir dire l'objet par rapport à ce vocabulaire animalier et comment, du coup, en quelque sorte, présenter mon travail devient en même temps une forme de blague et en même temps aussi une forme de critique sociale. Parce que, dans ce que je vous ai cité, je pense qu'on arrive très facilement à se rendre compte que c'est un vocabulaire qui est extrêmement misogyne, qui est aussi raciste. Et voilà. Et donc, pour revenir aux objets, parce que s'il fallait parler de ça pour aller aux objets, et peut-être que c'est pas le plus manifeste par rapport à ça, mais cette chemise, par exemple. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire qu'on voit un peu.
Ouais, on voit.
Ah ouais. Alors,
là, je vois bien. C'est un peu plié, mais on voit le haut de la chemise. Alors ça, c'était la chemise du poulet. Donc c'est une chemise en cuir de veau. Donc c'est deux peaux de dead stock. Parce que oui, il faut que j'explique ça aussi. Mais toutes les matières que j'utilise sont des matières qui sont non vierges. Donc c'est des matières qui sont mises à la poubelle. Et c'est en ça aussi que c'est aussi pour ça que je me revendique du déguisement. C'est parce qu'il y a cette idée de récupérer des choses autour de moi. Donc, vous l'avez vu avec le sac, par exemple, c'était des coquilles d'œufs sur du cuir. Voilà. Donc, qui donne un faux effet croco, mais fait maison, DIY, avec les coquilles d'œufs de la coloc. est fait à la pince à épiler et au petit pinceau. Voilà, donc.
T'as collé ?
Oui, j'ai collé.
Juste de la colle ?
Oui.
Ouais, j'allais dire.
Alors, à chaque pièce, c'est plusieurs centaines d'heures de travail. Donc, c'est du coup, c'est là que vient le mot haute couture. C'est pas quelque chose que je récupère par prétention, mais quelque chose que je réclame parce que la haute couture, c'est un espace pour. C'est un espace spécifique dans la mode où on travaille à la main. De façon artisanale, et on élabore des savoir-faire, et souvent c'est beaucoup de temps de travail. C'est aussi des choses qui sont faites sur mesure. Donc ouais, c'est vrai que c'est ça que je ne me rappelle plus le nombre d'heures, mais par exemple ce look, parce qu'il y a une chemise et un pantalon, là j'ai ramené juste la chemise aujourd'hui, c'est un mois de travail. À l'intérieur, en fait, alors je sais pas si on voit, en fait c'est vraiment un patchwork de plein de petits morceaux de cuir que en fait je rapièce pour créer d'abord une base de cuir, et ensuite il y a une broderie de ce qu'on appelle en plumasserie un marabout, qui est en fait le duvet de la dinde, donc c'est la partie la plus pauvre de la plume, que je viens broder par-dessus le cuir.
Ok.
Voilà, et du coup l'idée c'est vraiment cette idée de chair de poule. Donc d'avoir la peau et la plume l'un dans l'autre, mais avec une technique qui évoque à la fois le DIY à travers le patchwork, qui est une technique de personnes à la base pauvres qui utilisent des morceaux de vêtements ou des morceaux de textile pour créer un objet, et la plume, qui est une technique revendiquée par les métiers d'art de la plumasserie aujourd'hui, mais après qui plus largement, c'est une technique qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'humanité et pas qu'en Occident.
Et est-ce que c'est agréable à porter ou pas?
Alors, je pense que... enfin, pour l'avoir porté...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'étais plusieurs fois à mes jurys parce que j'étais ce personnage du poulet dans ma collection à un moment. C'est agréable. Moi, je trouve que la chemise est agréable, le pantalon, je trouve, l'est pas. Mais c'est dû au fait du patchwork. Parce qu'en fait, plein de petits bouts de cuir sur la peau, c'est pas comme un cuir entier. Mais pour moi, c'est aussi important dans mon travail de valoriser des déchets. Et puis, c'est au cohérent avec ce que j'ai envie de dire, là où j'ai envie de me positionner, d'exister dans la mode. Voilà.
Ok. Et il y a une question sur le chat Folie du Web qui dit: Marvin, ton travail se rapporte le plus souvent à la nature, que ce soit dans l'imagerie ou dans la matière. À la matière plus ou moins brute, comment tu as travaillé cette démarche?
C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question.
Ah, bah voilà, bonne
merci
question.
Merci pour la question, parce que c'est une question qui va me faire travailler, je pense. Oui, c'est vrai que ce rapport à la nature est important. Mais ça, je pense que ça vient de juste un truc un peu bête. C'est que quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. J'ai toujours eu un rapport particulier aussi au paysage. Et oui, c'est vrai que c'était des éléments qui m'obsèdent. Dans les comptes que je suis sur Instagram, il y a presque plus de comptes de chihuahua, de carlin ou de poules de soie plutôt que des marques de luxe. Donc, c'est vrai que ça fait partie de moi.
Ok.
Et moi, j'avais une autre question, c'était en fait, donc t'es un artiste pluridisciplinaire, mais est-ce que t'aspires à rejoindre une grande maison, par exemple ? Est-ce qu'on t'a déjà proposé la direction artistique de maison ? Est-ce que ça te tente ?
Alors, il y a c'est une question intense, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que, enfin, en ce moment, on me la pose au moins une fois par semaine. Je sais pas ce qui se passe, ouais.
Wow.
Franchement,
peut-être parce qu'on voit du potentiel aussi.
Ouais. Ouais, après en même temps, je pense que dans la question, il y a aussi est-ce que ce serait intéressant ? J'ai l'impression, non, dans ta question, Anthony, est-ce que ce serait intéressant ?
Oui, est-ce que pour ton parcours, est-ce que toi, tu te vois t'épanouir dans ce rôle-là ? Est-ce que tu penses que ça pourrait servir ta vision artistique ? Ou est-ce que ce serait juste pour des intérêts financiers, par exemple ?
Alors, moi, j'aime beaucoup le format de collaboration. Là, la collaboration que j'avais fait avec Jean-Paul Gaultier. Là, récemment, j'ai fait une collaboration aussi avec Duvelroy, qui est une maison d'éventail, et L'Oignon, qui est l'une des maisons des métiers d'art de Chanel, qui fait du plissé. J'aime beaucoup ces formats, parce que c'est des capsules, c'est des moments donnés où on peut faire quelque chose, produire un objet, réfléchir à une série. Donc, ça peut être... Voilà, ça peut être trois éventails, comme ça peut être des bodys ou des jupes, des boucles d'oreilles produits en série de façon industrielle. Donc déjà, je trouve que sur un plan humain, moi, ça me permet de rencontrer des gens et ça me permet de continuer à apprendre plein de choses parce que j'ai 28 ans et je vais pas me dénigrer. mais oui, donc je trouve que ce format est intéressant. La question de la direction artistique, c'est une question qui m'a toujours obsédé parce que quand j'étais aux Beaux-Arts, je me rappelle, c'était en deuxième année, à mon jury, on m'avait dit t'es pas un artiste, ce que tu fais c'est de la direction artistique. Bon, dans la bouche de ce professeur, c'était quelque chose qui était péjoratif, parce que ça voulait dire, enfin, vous voyez, l'artiste il est tout en haut, et ensuite bon voilà, sur cette échelle en bas de l'artiste, il y a la direction artistique. Ouais. Donc qui n'est pas complètement un artiste, qui n'est pas complètement un auteur, mais qui est quelqu'un qui voilà, insuffle une idée, un mood, ou je sais pas exactement ce qu'il entendait par là. Mais donc je trouve que c'est un métier qui est hyper intéressant. Non, on m'a jamais proposé d'autre chose que des collaborations pour le moment. Si ça devait arriver, j'aimerais garder mon format de marque / compagnie de théâtre. Parce que oui, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais en fait j'ai une compagnie de théâtre et j'ai en même temps ma marque, et c'est un espace qui me permet à la fois de produire du coup des images, des moments, d'écrire, de créer des émotions pour le public, de partager mon travail de façon plus démocratique que si je me contentais d'avoir une marque de mode, parce que sur un niveau institutionnel, les jeunes créateurs ne sont pas spécialement soutenus en France. Donc, c'est, disons que pour moi, qui viens d'un milieu défavorisé, ce n'était pas forcément le plus évident. Et le milieu des arts vivants valorise mon travail autant dans le vêtement que mes textes, que mon travail de performance et tous les signifiants et les sens que je mets dans ma pratique est valorisé dans cet espace-là. Donc, j'aime bien avoir les deux. Et j'aimerais bien garder ce format pour les prochaines années, vraiment de chérir ce format de la marque qui est une marque et en même temps une compagnie de danse et de théâtre. Et si on me proposait demain la direction artistique d'une maison, bah déjà, proposez-moi. Parce qu'en fait, voilà. C'est vrai que je ne sais pas trop comment je réagirais et je ne sais pas quelles questions se poseraient parce que il y a des questions de droit d'auteur, des questions d'intérêt. C'est vrai que je me sens très libre dans ce que je fais. Je parle de plein de sujets. Je me permets d'avoir une opinion très politique sur plein de choses. Je ne sais pas si, dans le cadre d'une grande maison, je pourrais avoir cette liberté d'expression. Mais s'il y a des gens qui m'entendent, invitez-moi et puis on verra.
Voilà.
Mais il y a des maisons qui tentent particulièrement.
Mm-hmm. Ah, bien sûr. Bah, on parlait d'Alexander McQueen. C'est l'une des maisons qui m'a le plus marqué dans mon parcours. Parce que pour moi, Alexander McQueen, c'est un artiste. Enfin, je pense qu'on va finir par arriver à le dire, mais c'est un artiste tout autant qu'un designer.
Ouais.
C'est un metteur en scène tout autant qu'un créateur de vêtements. Donc, c'est une maison qui m'intéresse dans ce sens-là. Évidemment, la maison Jean-Paul Gaultier, mais bon, maintenant, j'ai coché la case. Donc, et puis, je pense que dans l'idée de la direction artistique, d'inviter plein de nouvelles personnes, c'est pas forcément d'ancrer une personne et un nom. Voilà. En France, en fait, il y a tellement de maisons incroyables. Moi, je pense que ce qui se passe avec... quand ils relancent des vieilles maisons, ouais, et qu'on vient reconvoquer des archives, c'est toujours hyper intéressant. Maintenant, c'est vrai aussi que, quelque part, là, c'est un truc un peu, le moment un peu, peut-être un peu dur dans ce que je vais dire, mais pourquoi pas donner l'opportunité à des jeunes créateurs de réaliser leur vision avec leur propre nom. Parce que c'est aussi une question d'héritage. Moi, je m'appelle M'Toumo, c'est un nom camerounais, c'est un nom antillais, c'est le nom d'une coupeuse de canne. Ça n'a pas le même poids symbolique si demain j'arrive à me faire connaître avec ce nom de famille et de savoir ce que ça porte et ce que ça charrie, plutôt que de devenir DA d'une maison comme Lanvin ou... ou Rochas. En France, on a tendance beaucoup à aussi s'enfermer dans ce ouais, patrimoine, mais on devrait donner plus l'opportunité à la jeune création de s'exprimer, d'avoir des vrais espaces, des vraies plateformes. Ouais, donc l'argent que vous avez, donnez-le aux jeunes créateurs, et puis nous, on va raconter nos histoires avec vous, on va collaborer, et puis on va parler d'aujourd'hui, parce que je pense que Coco Chanel, elle est très intéressante, cette figure. C'est indéniable, mais il y a tellement de personnes qui demandent à faire ce métier aujourd'hui, qui ont plein de choses aussi à raconter, qui parlent à nos générations et qui sont aussi urgentes par rapport à ce qu'on vit comme crise climatique, comme crise sociale, moi, c'est un peu mon avis sur ça.
Ouais, je pense que t'as entièrement raison. Il y a Florence qui applaudit à côté. D'ailleurs, si tu veux rebondir, faire des remarques, des questions, vas-y. Hein.
Ouais, je suis en roue libre. Non.
J'allais parler... justement, c'est effectivement rarissime, en fait. Le modèle économique des maisons de luxe aujourd'hui et des jeunes créateurs, souvent, c'est pour continuer à développer ma propre maison, ma propre marque, jeune marque, en tant que jeune créateur, ça va être d'accepter un poste de DA dans une maison patrimoniale, ce qui arrive souvent, et parfois il y a des designers qui n'y survivent pas, parfois ça marche plus ou moins bien, parfois ça dure quelques années, parfois moins. Je pense à Coperni, la jeune marque dont on parlait un peu plus tôt, qui a accepté un temps la DA de Courrèges, de faire la direction artistique de Courrèges. Il y a eu d'autres mariages plus courts, comme Bouchra Gérard chez Lanvin. Moi, je l'adorais. Bouchra Gérard, elle avait sa propre maison qui fonctionnait bien, qui était très confidentielle de la haute couture. Et elle a accepté la direction artistique de Lanvin, et ça a duré 2 saisons, je crois. Enfin, c'est extrêmement bref. Voilà. Mais sinon, il y a très peu de designers qui arrivent à garder leur propre maison sans en accepter d'autres. Je pense à Isabelle Marant et Jacques Mus, en fait. C'est les seuls designers français que j'imagine, que j'ai en tête, si vous en avez d'autres.
Marine Serre, ça marche bien,
mais je suis sûr qu'elle va accepter une maison bientôt. Mais je sais pas, mais je pense.
Non, et puis surtout, combien de temps elle a mis pour émerger, en fait. Enfin, parce que moi, j'ai l'impression de la suivre depuis... un peu moins de 10 ans, mais enfin quand même vraiment plusieurs années.
Aussi la marque Casablanca.
Casablanca, je suis sûr qu'il va accepter. Ouais, oui, ça marche bien aujourd'hui pour lui. Je suis sûr qu'il va accepter la DA d'une maison bientôt, mais j'en sais rien.
Après, il y en a qui ont des profils, je trouve, qui se prêtent à aller dans des maisons et à devenir un directeur artistique. Ouais. Il y en a d'autres pour qui peut-être ça vaudrait le coup de les laisser développer leur propre histoire.
Exactement.
Jacques Mus, c'est sûr que, bon, vu son sujet... c'était plus intéressant pour lui d'être Jacques Mus comme il l'est maintenant. Et je pense que c'est le pari qu'il a fait, il est payant, personne ne peut dire l'inverse.
Effectivement, c'était un storytelling tellement intime que ça pouvait difficilement fitter avec une autre maison, mais ouais, c'est intéressant. Alexandre Mathiussi aussi, mais en fait, je trouve que Jacques Mus, Alexandre Mathiussi, Casablanca, c'est des exemples très très commerciaux, en fait, aussi. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche, qu'ils arrivent... à être sustainable financièrement, quoi.
Bien sûr.
D'ailleurs, toi, Marvin, est-ce que financièrement, t'arrives à vivre de ton activité?
Alors, moi, je fais beaucoup, beaucoup de choses. J'ai plein de métiers en même temps. Je fais du costume pour des metteurs en scène, pour des chorégraphes, dans des opéras ou des théâtres. J'enseigne à la HED depuis récemment. J'ai commencé il y a 2 semaines. Donc, mon ancienne école de mode. J'enseigne un cours pratique avec les étudiants. Enfin, j'enseigne. Bon, c'est un grand mot. Mais en tout cas, je travaille à la HED et je fais de la pédagogie, on va dire. J'ai aussi des fois des jobs qui sont un peu plus inattendus. Enfin, par exemple, récemment, une marque qui s'appelle Agapornis m'a mandaté pour écrire un texte pour LE. En fait, ça va et ça vient et ça dépend. Des fois, c'est les collaborations avec les maisons qui me permettent de vivre. J'ai la chance de ne pas avoir, un job alimentaire comme on l'entend un peu dans le milieu de l'art, au sens de bosser chez Monoprix comme je l'ai fait des années, ou bosser comme, animateur de centre aéré comme je l'ai fait aussi, ou faire le ménage. Enfin, ça peut être plein de choses et ça dépend de chacun et de nos profils et de nos opportunités et de nos réseaux surtout. Mais ouais, je fais tout ça. Et à côté, du coup, j'ai ma compagnie et la marque. Et la marque, c'est pas un espace où je gagne de l'argent. C'est plutôt un espace où je raconte des choses. Et je gagne plus d'argent en faisant de la mise en scène. Enfin, je gagne. C'est un grand mot. Hein. Mais en tout cas, c'est plus rémunérateur et c'est plus soutenable psychologiquement et économiquement. Le théâtre, pour moi, pour le moment, en tout cas. Après j'ai fait c'est un parti pris aussi. C'est vrai qu'après la collaboration avec Jean-Paul Gaultier et le prix Chloé, j'aurais pu faire comme plein de jeunes créateurs le font, lancer une marque de prêt-à-porter, faire du mesh, faire des body, ou sortir une ligne de sacs de luxe, j'en sais rien ce que j'aurais pu faire. J'ai fait un choix qui est un choix plutôt affectif. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de collaborer avec des personnes que je trouvais incroyables, et je savais que le médium de la mode tel qu'il est pratiqué aujourd'hui par la jeune création en France, en tout cas, c'est pas un modèle qui m'intéresse plus que ça, qui m'intéresse dans le sens, je regarde beaucoup, je suis au courant de plein de choses, ça me passionne, mais je m'identifie pas à plein de jeunes créateurs qui en fait sont très créatifs au début et puis ensuite font une énième collection de vêtements, de prêt-à-porter qu'on a déjà vu. Et moi, j'ai envie qu'on donne à ma génération l'opportunité de s'exprimer. Et j'espère qu'on pourra, comme à d'autres époques, des McQueen ou des Galliano, des Balenciaga, des Dior, des Paul Poiret, il y en a plein des noms. Il y en a plein des noms, mais c'est des gens qui ont inventé une silhouette, qui ont inventé une esthétique, qui ont développé une vraie pratique. Et aujourd'hui, il y a toute cette chape de plomb là, avec le marketing et cette obsession de l'argent et du capital qui fait qu'on a beaucoup de mal à créer. Et donc, pour répondre à ta question, je m'étends comme d'habitude.
Non, t'inquiète. Toi, t'as une question, Florence ?
Non, j'ai pas spécialement de questions, sinon que je suis à 100% alignée avec ce que tu dis, quoi. Enfin, c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir un nouveau McQueen, un nouveau Galliano, un nouveau Poiret, enfin, ou plein d'autres types de personnes. Il y a beaucoup de potentiel. Mais c'est vrai que je regarde... Je me suis interrogée il y a pas longtemps, qui me fait encore, ressentir l'étincelle. J'en ai trouvé un, Richard Quinn, je trouve, a vraiment commencé à développer un truc. Après, ça demande un truc de pouvoir étendre son esthétique pour former juste un truc qui soit pas un one-shot. Avoir une espèce de continuité. Ça, c'est dur. Ça demande des ressources.
Ça demande de l'argent, beaucoup d'argent.
Et beaucoup d'argent aussi, chose que les jeunes créateurs n'ont pas. Enfin, c'est le nerf de la guerre. Et du coup, après, c'est ça qu'on veut. Le public, en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je veux. C'est ce que je ne vois pas. Et le marché ne valorise pas ça. Donc, en fait, je me retrouve dans une aporie à regarder des sacs commerciaux de luxe, quoi.
Mais je pense que c'est... Effectivement, le marché ne veut pas ça parce que l'écosystème, le capitalisme et les groupes de luxe en particulier n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait plein de designers, de jeunes designers qui émergent. Ils ont plutôt intérêt à ce que la vieille maison se renouvelle sans cesse parce qu'elle est déjà identifiée. Le branding est déjà là, le storytelling est déjà là.
La clientèle, etc.
La clientèle, etc. Effectivement, Sarah, enchaîner les DA, des contrats de 3 ans maximum et puis tout fonctionnera, en fait, plutôt que de multiplier.
Ouais, mais du coup, t'enterres littéralement la créativité.
Ah oui, c'est clair.
Non, mais après, c'est
pour le capital.
En fait, c'est ça, c'est marketing qui mange un peu la créativité. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'à cause du marketing, la créativité est impactée. Ouais, c'est vrai.
Et justement, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé savoir avant de te lancer, Marvin, que t'aimerais partager, justement
Ce que j'aurais aimé savoir, c'est vrai, bon, pour être vraiment honnête, mais ça c'était il y a longtemps, mais au moment où j'ai décidé de faire enfin de me lancer dans l'art de façon un peu générale. J'aurais aimé qu'on m'explique que, bah en fait on, comment dire, en fait il y a un discours en France, le discours officiel c'est que tout le monde peut faire ce qu'il veut et que si on se donne les moyens on va y arriver. Ce discours méritocratique qu'on apprend à l'école dans nos cours d'éducation civique, parce que voilà, on est le pays d'égalité et de la fraternité. Mais en réalité, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est un parcours qui a été très précaire économiquement. Oui, c'était très compliqué des fois de se loger, des fois de manger. Des fois, sur des périodes très longues, ça a été compliqué. Je pensais pas que ça allait être aussi complexe. Surtout pour avoir les moyens de finalement raconter ces histoires à travers de la poésie. Je trouve qu'il y a quelque part quelque chose qui est un peu paradoxal de produire des objets poétiques, mais de ne pas avoir les moyens de se nourrir ou de se loger. Maintenant, au-delà de ça, j'ai aucun regret non plus, parce qu'on ne m'a pas expliqué que ça allait se passer comme ça. Ouais. Parce qu'on n'explique pas à un jeune de banlieue qui vit dans un milieu défavorisé, qui n'a aucun réseau, on ne lui explique pas que... En même temps, à cette époque-là, on n'allait pas m'expliquer que j'allais peut-être lancer ma marque, que j'allais peut-être devenir metteur en scène,
ouais,
ou que j'allais gagner le prix Chloé ou faire une collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Enfin, c'est aussi un truc qui est quand même un peu « what the fuck le parcours que j'ai, parce que je pense que c'est un parcours qui peut être finalement assez, on va dire, banal, dans le sens, ça arrive à plein de gens d'avoir des beaux parcours, mais à mon échelle, et pour moi qui a eu cette vie et qui a cette vie, c'est aussi un miracle, parce que je pars de super loin pour être là où je suis. Donc, ouais. Mais maintenant, j'espère. J'ai pas d'espoir, j'ai de la volonté et ça va le faire. On va continuer et puis j'ai aussi une communauté, j'ai aussi des personnes qui me soutiennent. Je crois beaucoup en ça. J'ai beaucoup de personnes hyper inspirantes autour de moi. Voilà, il y a des Florence Tétier qui m'ont fait confiance pour faire une collaboration chez Jean-Paul Gaultier. C'est pas rien.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est hyper beau ce que t'as dit. J'ai pas d'espoir, j'ai de la volonté. Ce serait un très beau mot de la fin.
Oui.
On a un petit problème technique.
Oui.
mais en tout cas, merci infiniment. Est-ce que Sarah ou Florence, vous avez une dernière question ou remarque? Ou Marvin, est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais ajouter? Une question, quelque chose que tu n'aurais pas abordé, que tu aurais voulu aborder? Ou est-ce qu'on peut te retrouver en 2023, par exemple? Est-ce qu'on peut te voir au théâtre, par exemple?
Alors, en 2023...
Instant autopromo.
J'ai... Enfin... pour les Suisses et les frontaliers, mais aussi pour les Français qui ont envie de se déplacer. J'ai présenté ma première pièce Concours de larmes au théâtre du Grütli à Genève et, en mai. Et le même mois, je vais présenter, donc juste avant, à l'Arsenic à Lausanne, cette même pièce. Je vous dirai bientôt à Paris quelle est la date. On est en conversation avec plusieurs lieux, donc on verra ce qui se passe. Mais voilà, ce sera l'occasion de montrer du coup ma première pièce, mais qui sera aussi forcément, vous l'imaginez, une collection de mode aussi, avec plein de choses autour. Donc, vous
verrez. Et tu mettras au courant sur tes réseaux sociaux, ça?
Oui.
Ok.
Et sur mademoiselle.com, on vous transmettra l'information, évidemment. Voilà, on va faire un truc. En fait, il y a la caméra pour Florence et moi qui a lâché. j'ai fait des pieds et des mains en coulisses, mais j'ai pas réussi. Du coup, on va dire au revoir sur la même caméra que Marvin et Sarah, si tu veux bien te lever, Florence.
Oui.
Et, comme ça, on va les rejoindre. Désolée. En tout cas, merci infiniment d'avoir été parmi nous pendant ce live qui sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Et voilà, je vois qu'il y a des gens qui se marrent dans le chat. Ne rigolez pas de mes souffrances.
Ouais, non, mais c'était galère.
C'était sportif. Voilà.
On n'a pas voulu vous le dire parce qu'on pensait que voilà, ça allait se régler, mais au final.
Ouais, ouais, mais en fait, c'était un peu galère. En tout cas, on va vous dire au revoir sur la caméra de Marvin et de Sarah. Si vous avez des questions, des remarques, allez-y dans le chat, c'est encore le moment. Et ouais. Puis voilà, peut-être que on y répondra aussi à travers un portrait sur Mademoiselle.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.